Bonsoir et excellente condition d'écoute du programme des Radio Capi à toutes et à tous. Bienvenue chers auditeurs, auditrices et internautes à ce nouveau rendez-vous de votre magazine Dialogue entre Congolais, mis en onde par Dieudonné Nyangasa wa Nyangasa. Il y a également Alain Ngoy qui participe justement à la mise en onde de ce programme. Je suis Jean-Marc Matoua Kimofele Ledijano, Guimate Tchongo assure la coordination, David Mugisa et Benjamin Moudoumbi assure la réalisation. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous suivre à Bounia sur 104.9 FM et sur le bouquet Canal Plus sur Channel 951, également sur le bouquet DSTV Channel 867. Vous êtes également nombreux à avoir réagi sur la page Facebook des Dialogues entre Congolais. Alors, la situation sécuritaire en Ituri continue à se détériorer. À la suite de cela, les membres du caucus des parlementaires ituriens ont dénoncé mardi 17 mars au palais du peuple à Kinshasa des attaques meurtrières attribuées aux rebelles des ZDF. Ils ont dénoncé l'extension de l'activisme de ces rebelles, notamment dans les territoires de Mambasa. D'après les élus de l'Ituri, la situation sécuritaire s'est fortement détériorée ces derniers jours, plongeant les populations locales dans la peur et l'incertitude. Il s'ensuit une crise humanitaire grandissante dans cette province. De son côté, la coordination provinciale de la société civile du Congo dénonce la passivité de l'armée ougandaise, pourtant engagée aux côtés des FRDC dans la lutte contre les ZDF. Selon elle, les troupes ougandaises laissent les FRDC agir seuls dans plusieurs localités des Mambasa et Djougou. Face à cette situation, la société civile accorde un ultimatum de 2 semaines à l'armée ougandaise de quitter la RDC. Faute de quoi, elle envisage les actions citoyennes prévues par la Constitution. Quelle analyse faire de l'ultimatum lancé par la société civile de l'Ituri aux troupes ougandaises à la suite de la recrudescence de l'insécurité dans cette province? Nous abordons cette question d'actualité, cette problématique avec 3 invités. Je commence par celui qui est avec nous dans ce studio, Monsieur Abdallah Penembaka. Bonsoir et bienvenue dans Dialogue entre Congolais.
Bonsoir, messieurs les journalistes.
Et je rappelle à nos auditeurs que vous êtes député national et membre de la majorité présidentielle et notable du territoire de Mambasa et ancien gouverneur de l'Ituri. Très heureux de vous recevoir dans ce plateau.
Merci.
Nous saluons également deux de nos co-débatteurs qui sont en ligne. Je commence par celui qui nous suit depuis l'Ituri, Samuel Ouketi. Bonsoir.
Bonsoir, 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 journaliste.
Alors, vous êtes coordonnateur provincial de la société civile du Congo. Bienvenue donc à ces débats. Et pour clôturer ce tour des tables, je salue et je dis bonsoir au professeur Bob Kabamba.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir aux auditeurs de Radio Capi.
Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes politologue et professeur à l'Université de Liège en Belgique.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiocapi.net.
Vous êtes très nombreux à avoir réagi. Merci de continuer à suivre ces programmes. Alors, en Ituri, la situation sécuritaire se dégrade avec l'intensification des attaques attribuées aux rebelles ADF depuis la semaine dernière dans les territoires de Mambasa. Dans le même temps, l'intervention des forces conjointes FRDC et UPDF continue de susciter des critiques. La coordination provinciale de la société civile du Congo dénonce l'inefficacité de l'armée ougandaise et lui a donné un ultimatum de 2 semaines qui expire la semaine prochaine pour se retirer du territoire congolais. Nous faisons le point avec Isaac Remoyope depuis Bounia qui a été joint par Benjamin Moudoumbi.
Bonsoir Isaac Remoyope.
Bonsoir Benjamin, bonsoir à tous les auditeurs.
Alors, quelle est la situation sécuritaire à ces jours dans la province de l'Ituri face aux exactions des ZDF?
La situation reste très préoccupante. Plusieurs villages, notamment Mouchacha, Babessoua, Pengue et Bufulani, sont la cible d'attaques des rebelles des ZDF depuis mercredi dernier dans les territoires de Mambasa. Ces assaillants ont étendu leur rayon d'action au-delà de Mambasa Centre jusque dans la réserve des Fona Okapi, à environ 300 km de Bounia, le long de la route nationale numéro 4, presque à la limite avec la province de la Tchopo. Le bilan est lourd, des dizaines de morts, des personnes enlevées, des pillages, des maisons incendiées, ainsi qu'un camion transportant du carburant. Plusieurs villages situés le long de la RN4 sont aujourd'hui vidés de leurs habitants qui ont fui vers Nyanya et Mambasa Centre. Les activités scolaires et économiques sont paralysées. La circulation a été momentanément suspendue avant de reprendre depuis jeudi, mais elle est risquée.
Cela étant, quelle est la position des députés et des autres structures citoyennes dans la province ?
Cette flambée de violence est vivement dénoncée par les députés nationaux de l'Ituri. Dans une déclaration faite mercredi à Kinshasa, ils ont exprimé leur solidarité avec les populations affectées et annoncé des consultations avec les autorités nationales, notamment les ministres de la Défense, les chefs d'état-major général des FARDC, ainsi que d'autres responsables, afin de trouver des solutions urgentes.
À cet effet, que dit la société civile face à cette situation préoccupante?
Alors, Benjamin, de son côté, la coordination provinciale de la société civile du Congo dénonce la passivité de l'armée ougandaise, pourtant engagée aux côtés des FARDC dans la lutte contre les ADF. Selon elle, les troupes ougandaises laissent les FARDC agir seules dans plusieurs localités de Mambasa et Djougou face aux groupes armés, notamment la CRP, la CODECO et les ADF. Elle affirme également que certaines unités sont déployées dans des zones relativement calmes, comme Mahagi et Bougnaville, où leur présence serait moins nécessaire. Face à cette situation, la société civile accorde un ultimatum de 2 semaines à cette force pour quitter la RDC, faute de quoi elle envisage des actions citoyennes prévues par la Constitution. Par ailleurs, d'autres couches de la population dénoncent également l'inaction des forces congolaises face à cette menace.
Isaac, quelle est la réaction du gouvernement provincial et des autorités militaires?
Selon des sources militaires, les opérations se poursuivent sur le terrain. L'armée indique qu'elle est en train de redynamiser ses positions afin de neutraliser les groupes armés actifs dans la région. Des témoignages des passagers font également état d'un renforcement des forces conjointes, notamment à Niania, pour sécuriser la route nationale numéro 4 et contenir la progression des rebelles.
Merci Isaac Remoyope.
Merci Benjamin Mudumbi et nous remercions également tous les auditeurs.
Merci à Benjamin et Isaac qui viennent de nous faire déjà les points, de planter les décors du sujet qui est votre magazine Dialogue entre Congolais aborde ce soir. Alors nous restons à Bougnage, Monsieur Samuel Ouketi, vous êtes donc le coordonnateur provincial de la société civile de la République démocratique du Congo, vous intervenez depuis Bougnage. Pourquoi lancer un ultimatum aux troupes ougandaises de quitter la province de l'Ituri?
Merci beaucoup mon frère journaliste pour la question combien de fois directe, mais je préfère d'abord commencer par une fois de plus présenter encore et encore nos mots de condoléances aux différentes familles qui ont perdu le leur. Nous enregistrons aujourd'hui à Mambasa successivement aux environ d'une semaine des cas de perte de nos compatriotes. À Mouchacha, nous avons perdu 25 compatriotes. Et à Babessoua, nous venons encore lâchement de perdre 11 personnes. Hein. Et c'est ce qui nous a frustrés jusqu'à nous amener à faire des enquêtes sur l'activité, sur la mutualisation des forces, n'est-ce pas, et UPDF-FARDC. Et cela nous a amené à prendre, à partir des résultats que nous avons sur le terrain, ça nous a amené de prendre la position que vous avez suivie, celle de donner l'ultimatum à cette armée ougandaise de quitter l'Ituri, parce que pour nous leur arrivée en province de l'Ituri c'était de l'espoir, c'était de constater, de voir ça et là que la peine et la tuerie contre nos compatriotes ont cessé. Malheureusement, mon frère journaliste, vous savez que sur l'étendue de la province de l'Ituri, nous filons à enregistrer une année depuis que cette force est entrée ici officiellement jusqu'à atteindre le chef-lieu de la province. Et une fois installée, on attendait voir, n'est-ce pas, la poursuite contre les forces négatives, notamment aussi les ADF NAL qui sont des forces étrangères qui dérangent notre population. Malheureusement pour nous, les constats restent vraiment amers et nous avions l'horoscope, la télépathie, de prendre notre position avant et 2-3 jours après, vous avez suivi comme journaliste le cas de mort qui a touché nos compatriotes en territoire de Mambasa. Alors, loin de ça, je voulais apporter une précision parce que il y a certaines personnes qui pensent que le fait pour une PDF de se faire voir à Mambasa serait égal à son activité, serait égal à son travail pour lequel il est venu faire. La présence de l'armée UPDF à Mambasa existe. Mais nous, ce n'est pas la présence de l'armée qui est problème pour nous. Ce n'est pas les arsenals que l'armée ougandaise est en train de faire passer au sein de la population pour nous qui est problème. Uh-huh. Mais nous voulons voir que cette armée est aguerrière. Elle est en train de mener des attaques elle est en train de faire sa mission et aussi elle est en train de participer en mission avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Vous avez appris avec nous qu'au-delà des populations civiles, nous avons perdu aussi des officiers de notre force armée de la République démocratique du Congo, FARDC. Et c'est où? C'est par une embuscade dans une zone de combat où c'est insécurisé par ces militaires adverses. Où était l'armée ougandaise? Et vous avez appris à Mambasa qu'il y a un officier de l'armée ougandaise qui est décédé? La réponse est non. Pourquoi? Parce que ils sont dans les milieux qui sont censés être habités par la population, hein, les milieux qui sont moins insécurisés. Alors, c'est là où nous on se pose des questions, est-ce que c'est le tourisme, ou alors c'est peut-être c'est une armée qui est venue impressionner les Congolais. Alors, pour nous, nous avons décidé, comme nous l'avions déjà rendu public, que cette armée doit rentrer dans son pays. Nous reconnaissons la force des combats, la force des frappes de notre militaire, des FARDC. Ils sont partout, ils ont prouvé à Ndjougou, au littoral des bords du lac Albert. Nous l'avons vu. C'est vrai qu'il y a un problème de l'effectif qu'il faut renforcer. C'est vrai qu'il y a le problème de la logistique qu'il faut envisager, augmenter. Mais pour nous, il suffisait de laisser l'armée congolaise FARDC sans avoir de l'espoir qu'à côté on peut avoir une force d'appui. Et nous l'avions vu, monsieur le journaliste, ça c'est une parenthèse que je vais créer pour que vous puissiez aussi bien comprendre la situation.
Oui, allez-y.
Vous savez que s'il faut prendre les camps, par exemple, du territoire de Ndjougou, nous avons vu aux côtés de FARDC, la MONUSCO a contribué. Et vous savez que pour l'aspect sécuritaire, la MONUSCO s'est donné la peine de déplacer un camp à Fataki avec les soukas dans le milieu jusqu'à Mragi là-bas. Et nous avons vu aussi cette combinaison-là des transports de blessés et la contribution, par exemple, au niveau de l'aspect sanitaire. Cet appui-là de la MONUSCO était visible. Mais qu'en est-il de UPDF? Pour nous, s'il faut peut-être entretenir cette relation-là et envisager autre chose qui peut amener la paix pour éviter la mort que nous sommes en train de regretter aujourd'hui. Loin de ça, je pourrais peut-être dire aussi, parce que l'opinion doit comprendre ça aussi. Vous savez, il y a un aspect que les gens semblent ne pas comprendre, que l'armée ougandaise, dans ce territoire de Mambasa aujourd'hui, elle n'est pas simplement arrivée à l'année 2025, non. La présence de cette armée, bien sûr avec combinaison de commandement qui se faisait depuis le Nord Kivu, cette armée a existé déjà vers ce côté-là depuis l'année 2000, presque 23. Mais quel est le résultat? Parce qu'on ne veut pas évaluer l'armée parce qu'on voit qu'il a de l'arsenal, une logistique, et on ne peut pas seulement voir l'armée parce qu'ils sont un effectif important. Non, pour nous, nous voulons voir ce qui est assigné dans l'objectif. Et c'est là où je salue encore l'effort des chefs de l'État. C'est vrai qu'il a raisonné, amener des contributions aux côtés de FARDC pour que la paix soit retrouvée sur l'étendue de l'Ituri. Malheureusement, nous sommes en train de constater ça et là, que cette armée ne pourrait pas amener sa force à la contribution de ce que les FARDC sont en train de faire.
Mais justement, quand vous dites que les troupes ougandaises ne font rien, mais qu'est-ce qu'elles font concrètement?
Voilà la grande question. Voyez-vous, nous sommes au niveau de la ville de Bounia. Et en ville de Bounia, vous allez regarder dans les avenues de la ville, il y a des jeeps, des officiers ougandais qui sont en train d'acheter, sérieusement armés jusqu'aux dents. Bon, on se dit, mais est-ce que c'est pour ça qu'ils sont venus? Et d'abord, vous voyez, je vais vous laisser attendre d'autres éléments importants. Peut-être que j'allais me s'abstenir de le dire à la radio, mais ça vaut la peine que cela passe. Vous imaginez, par exemple, sur les artères de Fataki, dans un milieu qu'on appelle Bethlehem, on avait des bois à grimes là-bas. Et ces bois à grimes ont été coupés, acheminés en Ouganda. Pour nous, est-ce que c'est ça la mission? Alors, nous avons des troncs, nous avons pris cette position-là, de demander à cette armée, parce qu'au-delà de ça, nous avons encore d'autres dérapages que nous avons documentés. Le moment va venir, on va vous donner pour que vous puissiez exploiter davantage. Et ce sont des choses graves qui peuvent constituer même des infractions en matière de guerre, ainsi de suite.
Merci beaucoup, M. Samuel. On vous garde encore avec nous dans ces débats. Alors, M. Abdallah Penembaka, vous êtes député national, membre de la majorité présidentielle et notable du territoire de Mambasa. Et vous êtes aussi, pour compléter la liste de présentation, ancien gouverneur de l'Ituri. Alors, vous avez dénoncé la recrudescence de l'insécurité en Ituri. Quels sont les éléments sur lesquels vous êtes basé ou vous vous basez pour justifier votre démarche?
Excusez-moi. Merci beaucoup encore une fois pour cette opportunité. Je salue en passant mes co-débatteurs et permettez que je salue aussi tous les co-collègues qui nous suivent à travers toute la République et à travers le monde, et particulièrement les Ituriens, les filles et fils de Mambasa qui sont en train de nous suivre à ce moment. La recrudescence de la sécurité, c'est depuis le 11, dans la nuit du 11 au 12, que la localité, le village de Mouchacha, la nuit, a été surpris par une attaque de ces agents civiques et des ADF qui pillent, violent et incendient tout sur leur passage. Il y a eu le village de Mouchacha, Mavoufou, Pégué, et dernièrement, il y a eu même la RN4 qui a été coupée au niveau de Babessoua. Au-delà de ça, vous devez savoir, monsieur le journaliste, qu'il y a de cela un moment, l'insécurité n'était pas dans une chefferie comme celle de Walese Karo, Walese Dese, mais ça s'est arrivé à ce niveau-là, et avec une curiosité, sa commune mesure. Et alors, c'est tous ces éléments-là qui ont fait que nous puissions élever le ton et rappeler au pouvoir public sur l'obligation de pouvoir protéger la population et ses biens. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une situation humanitaire catastrophique parce que Nyanya s'est plaint sans aucune assistance ni du gouvernement provincial ni du gouvernement central, encore moins des humanitaires. Mambasa, c'est la même chose. Et vous devez savoir que c'est cette zone où se trouve Okapi, hein, c'est un site du patrimoine mondial qui devrait être protégé. Malheureusement, avec tout ce qui se passe tout autour, il y a risque qu'on puisse encore vivre les pires, comme nous l'avons vécu il y a un certain moment avec Morga. Voilà, c'est tout ce tableau sombre hein, qui nous pousse à élever le ton et on a dit parce que tout ce que nous devons savoir, c'est d'abord, il appartient à d'autres armées de pouvoir sécuriser le territoire congolais. Il leur appartient de pouvoir sécuriser la population et c'est bien. Oui, l'UPDF est venu en appui, mais on ne peut pas demander à celui qui est venu en appui de faire ce que les propriétaires de la maison devraient faire. Effectivement, il se pose un problème d'effectif, L'effectif ici, il est souvent justifié du fait que, dans la plupart des cas, les militaires préfèrent garder les sites d'exploitation minière des Chinois. L'effectif ici se pose du fait que il n'y a pas un renouvellement, il n'y a pas une relève sur terrain, et il se pose aussi un problème sérieux en termes de la logistique. Voilà tous ces tableaux sombres et qui, depuis un certain moment, nous avons décidé, on devrait voir toutes ces autorités pour les pousser à agir, parce que en dehors de cet contact que nous devons faire dans un premier temps, en tant que parlementaires, nous avons aussi un instrument à notre disposition pour pouvoir s'actionner. Cela qui dépend de nous par rapport à leurs responsabilités.
Est-ce qu'à travers cette dénonciation, vous rejoignez plus ou moins la société civile congolaise, la section provinciale de Bounia, dans son ultimatum?
Mais c'est Jean-Marc, la situation de l'Itour, elle est très complexe. Et dans un jeu, le plus important, c'est de connaître les acteurs. Nous connaissons qui est qui et qui fait quoi à l'Itourie. Et d'ailleurs, nous, vous devez vous rappeler que les caucus des députés, nous avons toujours demandé au chef de l'État d'élever cette mesure de l'état de siège, parce que c'est en principe, c'est l'état de siège qui devrait nous apporter la paix. Malheureusement, rien ne marque. Voilà. Aujourd'hui, s'il faut parler, parce que je ne suis pas venu et je ne peux pas parler, et je ne suis pas porte-parole de l'IPDF. Mais pour la population de Mambasa, dire que l'IPDF doit partir, ça, on se pose la question, qui est derrière cette société civile? Est-ce que cette société civile n'est pas derrière ces hommes attrayés qui veulent se passer comme des hommes politiques et qui veulent régler des comptes à l'UPDF? Parce que vous devez savoir que cette force mutualisée a connu dès le départ de problèmes entre les autorités provinciales et la famille, par exemple, Museveni, ça vous le savez. Bon, ça ne nous regarde pas. Parce que lorsqu'on est un homme en uniforme, il y a l'unité de commandement. Kinshasa dit, vous devez vous exécuter, mais la province, excusez-moi, ne veut pas s'exécuter. Nous, dans le territoire de Mambasa, nous saluons ce que l'UPDF est en train de faire. Nous avons vu l'UPDF à l'œuvre dans la chefferie de Bakwanza. D'abord, les Congolais, beaucoup de Congolais doivent savoir que c'est l'UPDF qui a freiné la passée des M23 du côté de Lubero. Et ne pas être reconnaissant aujourd'hui, c'est une myopie. Voilà. En dehors de ça, vous allez aujourd'hui à Irumu. Irumu est devenu calme. C'est l'UPDF. Bien sûr, c'est la force coalisée, UPDF. Et dans la chefferie de Wallace Karo, il y a Inakalbi, parce que l'UPDF est intervenu, un grand bastion a été démantelé. Voilà, je crois que chacun devrait savoir ce qu'il doit faire. Les forces armées de la République démocratique du Congo doivent faire leur part. Et la population, dans un premier temps, partage d'abord les informations avec les FARDC. Elle ne partage pas les informations avec l'UPDF. Elle commence avec les FARDC. Ce sont les FARDC qui planifient. Et après, il y a l'intervention et l'action. Voilà. Et nous, on devrait... C'est un problème de coordination des opérations seulement. Voilà. On traque les ADF dans les Nord-Kiv, mais aucune mesure de sécurité n'est mise en place en province de Litouri pour arrêter l'avancée des ADF. Aujourd'hui, dans la chefferie de Bombo, chose que nous déplorons, beaucoup de gens ne savent pas que Bombo est limitrophe avec le territoire de Bafassende. Bafassende, c'est pratiquement la Tchopo. C'est la même forêt. Aujourd'hui, les ADF sont chez les Walesedes. Walesedes, c'est limitrophe avec le territoire de Ouacha. À tout moment, c'est la même forêt. À tout moment, ils peuvent s'éclipser. Et qui vous dit qu'ils ne sont pas encore là? Voilà. Au lieu que l'armée, et nous les Congolais, nous pouvons être beaucoup plus exigeants envers nos institutions, nous pensons que ce sont les autres qui viendront faire la paix en lieu place de nos institutions. C'est un peu regrettable.
Merci beaucoup, monsieur Abdallah Penembaka. Nous allons maintenant recourir à vous, professeur Bob Kabamba, politologue et professeur à l'Université de Liège. Quelle est votre analyse sur l'ultimatum de la société civile de l'Ituri qui exige aux troupes ougandaises de quitter la province de l'Ituri?
Alors, permettez-moi dans un premier temps de pouvoir féliciter cette société civile pour pouvoir arriver à essayer de crier haut et fort ce qui est en train de se passer dans cette province. Toute l'attention au niveau international est uniquement focalisée sur Goma et Mbalcroix, AFC, etc., etc., etc. Et on oublie beaucoup ce qui est en train de se passer dans cette région et laissez-moi véritablement rendre hommage à cette société civile qui se bat avec ses moyens pour essayer d'attirer l'attention internationale sur cette question fondamentale. Et par ailleurs aussi, laissez-moi aussi dire quand même que c'est assez navrant et même énervant de voir un petit peu l'évolution de la situation telle qu'elle est en train de se passer. C'est qu'au niveau même de l'opinion publique congolaise, la situation en Ituri et dans d'autres régions du grand nord du nord Kivu, la situation n'est pas sous silence, il n'y a pas de réaction. Il y a autant de morts, plus de 60 000 morts qu'on a déjà recensés depuis quand même plusieurs années dans cette région, on n'en parle pas, il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'action humanitaire comme on est en train de voir le déploiement par exemple pour qui concerne Goma, mais du côté de l'Ituri, il n'y a rien qui s'est en train de se passer, alors qu'il y a, quand on parle de millions de déplacés congolais en interne, on oublie souvent de pouvoir mentionner justement la dimension de l'Ituri et de la province, l'ancienne province orientale. Et tout ça, c'est d'abord en introduction. C'est qu'il faut bien se rendre compte de quoi on est en train de parler. On est en train de stigmatiser l'armée ougandaise en disant qu'elle ne fait pas son travail. Oui, l'armée ougandaise ne fait pas son travail. Il faut se le dire, il faut l'avouer. Il faut que ce soit un fait qui soit accompli, qui soit assumé par du côté congolais. L'armée ougandaise n'est pas venue au Congo pour essayer de stabiliser la zone. Depuis que l'armée ougandaise s'est déployée dans la zone, vous pouvez regarder les différents rapports qui ont été publiés, c'est qu'on a assisté à une augmentation du nombre de morts, augmentation du nombre de déplacés. Donc l'armée ougandaise n'est pas venue pour stabiliser. Elle est venue uniquement pour empêcher que les ADF ne fassent leur sale besogne en Ouganda. Mais les ADF peuvent faire ce qu'ils veulent au Congo sans aucun problème. Tant qu'ils font au Congo, quand ils ne le font pas en Ouganda, ça va et ça passe. Et du côté du gouvernement congolais, on accepte cette situation, puisque tout simplement l'opinion publique, le narratif du gouvernement congolais est axé sur le Rwanda et oublie ce qui est en train de se passer par rapport à l'Ouganda. Et ce qui se passe par rapport à l'Ouganda, de mon point de vue, du point de vue des chiffres que je vais donner, même si je sais qu'il y a beaucoup de Congolais qui ne vont pas être d'accord avec moi, c'est beaucoup plus pire que ce qui est en train de se passer avec le Rwanda. Je vais vous expliquer calmement, tranquillement, chiffres en appui. Depuis que l'armée ougandaise est intervenue dans cette zone, vous devez vous rendre compte que la production, les exportations d'or de l'Ouganda, nous savons tous que l'Ouganda n'a pas de site minier d'or, n'a pas de minerai d'or, mais donc l'Ouganda, aujourd'hui, donc je viens de citer les chiffres de 2025, ça veut dire que nous sommes au mois de mars 2026, les derniers chiffres d'exportation d'or de l'Ouganda vers les Émirats Arabes Unis, le chiffre est de 5,3 milliards de dollars. Et donc tout cet or vient de cette province-là pour pouvoir être vendu par l'Ouganda et ça rentre dans la balance commerciale. Je regarde les exportations du café en 2025. Le café à l'Ouganda devient le premier, écoutez-moi bien, exportateur de café d'Afrique. Et une bonne partie de ce café vient du Congo. Le cacao, papaïne, bois, tout ça est en train d'être pillé au Congo vers l'Ouganda, être exporté et sécurisé justement par les troupes qui sont au Congo, qui sécurisent effectivement ce qu'on appelle la zone de commerciale, les axes commerciaux vers ce pays. Mais à Kinshasa, on ne veut pas, on sait ça, mais à Kinshasa, ils ne veulent pas dénoncer ça pour la bonne et simple raison que Kinshasa a peur que Kampala fasse lien avec Kigali pour arriver à dire que non, le narratif qu'ils ont mis en place à Kinshasa va mettre en difficulté la stratégie qui est la leur depuis hyper longtemps. Et quand je regarde le nombre de morts, c'est-à-dire le nombre de morts depuis que l'armée ougandaise est intervenue, les chiffres que j'ai, c'est publié par les Nations Unies, publié par les ONG, il n'y a même pas longtemps, MSF a encore publié un autre rapport accablant par rapport à ce qui est en train de se passer dans cette région, au vu et au sud de Kinshasa, et Kinshasa ne réagit pas, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait un autre narratif que le narratif du Rwanda. Malheureusement, ce qu'il y a comme conséquence, c'est que c'est les populations locales qui continuent toujours à être les premières victimes et ces populations continuent toujours à souffrir. Par ailleurs aussi, quand vous suivez les discours des autorités ougandaises, aussi bien au niveau de l'armée que du président Yoweri Museveni, qui dit sans même être contredit, que de toute façon, la région de l'Ituri, c'est une région qui fait partie de l'interland ougandais. Si c'était Kigali qui l'avait dit, je pense qu'on aurait déjà commencé à crier. Mais comme c'est Museveni qui dit que l'interland Ituri fait partie de l'Ouganda, ça veut dire que cette zone dont on est en train de parler fait partie de l'espace ougandais. Et on a des rapports qui nous expliquent que véritablement au niveau des frontières, au niveau de... Même aujourd'hui, la présence de l'armée ougandaise, on ne sait même pas si c'est encore légal parce qu'il fallait toujours renouveler tous les 6 mois cette présence-là. On ne sait même plus si on a renouvelé, si on ne renouvelle pas. Mais de toute façon, l'armée ougandaise s'en fout. Ils sont chez eux comme ils ont dit. Ils agissent comme ils sont chez eux. Et ils font ce que je suis en train de dénoncer. Et qu'est-ce qu'on a ? Population civile, marche tout le temps. Et puis on a le déplacement qu'on oublie. C'est que le collègue de la société civile est en train d'évoquer. Déplacement, ce qu'on appelle une modification démographique. C'est-à-dire qu'on est en train de faire une espèce de nettoyage ethnique, épuration ethnique, qui est en train de se passer, et tout ça est au vu de l'autorité de Kinshasa, mais l'autorité de Kinshasa ne bouge pas. Et on se demande si l'Ituri fait partie encore de la RDC, ou l'Ituri fait partie, comme l'a dit le président Museveni, de l'interland ougandais. Donc tout ce qui se passe à l'Ituri doit dépendre de Kampala et pas dépendre de Kinshasa. Malheureusement, on est en train de vivre ça au jour le jour sans aucun problème. Le chef d'état-major de l'armée ougandaise qui menace le gouverneur de la province de l'Ituri lui demanderait de quitter Bunia parce qu'il va venir l'arrêter. On n'a pas eu de réaction des côtés de Kinshasa. C'est passé comme si c'était une lettre à la poste, comme si c'était normal qu'un chef d'état-major peut menacer une autorité congolaise et qu'il n'y a pas de réaction. Malheureusement, c'est cette aspect qu'on est en train de voir, et moi, de mon point de vue, je me dis, oui, effectivement, on est en train d'aller vers cette dimension. Et lorsque l'on parle même d'une balkanisation, on ne regarde que du côté des FCM 23, mais on oublie de regarder ce qui se passe en Ituri. Mais ce qui se passe en Ituri, véritablement, c'est, comme Museveni le dit, oui, l'Ituri fait partie de l'Interland Ougandais, et malheureusement, on ne bouge pas, et on trouve ça tout à fait normal. Le shilling, la monnaie ougandaise, est utilisée dans la zone sans aucun problème, comme si c'était normal que cet espace soit géré de cette façon-là. Voilà un petit peu ce que je peux dire comme réaction par rapport à ce qui est en train de se passer. Mmh. Et j'appuie vraiment la société civile qui revendique, qui essaie de se battre pour que on ouvre les yeux sur ce qui est en train de se passer dans cette région.
Professeur Bob Kabamba, peut-on dire, partant de cette analyse, de ces diagnostics, de ces tableaux que vous venez de brosser, que les opérations conjointes FRDC, UPDF, opération Soudja, n'ont pas produit des résultats escomptés?
Il n'y a pas d'opération Soudja, il n'y a pas d'opération Soudja, pour la bonne et simple raison que les troupes qui sont déployées dans cette zone, les troupes congolaises déployées dans cette zone, sont insuffisantes. Vous avez plus de 6000 militaires ougandais qui sont déployés. Et le chiffre de 6000 militaires, ça a été publié par le rapport des Nations Unies, parce qu'on n'a pas de chiffre réel, même du côté congolais, du côté du gouvernement, ils sont incapables de pouvoir donner le chiffre réel des militaires ougandais qui sont déployés. Et comme je viens de vous le dire, comme du côté congolais, il n'y a pas suffisamment de troupes, alors l'essentiel de ce qu'on a là-bas, ce sont des troupes ougandaises, et ces troupes ougandaises ne font pas le travail, parce que le travail qu'ils doivent faire, c'est uniquement sécuriser ce qu'on appelle les axes commerciaux pour permettre à ce que l'or quitte la province, va à Kampala. Pour que le café, le cacao, le bois, papaïne, tout ça, quitte et sans payer les douanes, sans contrôle, et quand ça arrive à Kampala, en Ouganda, ça devient une exportation, non pas congolaise, mais une exportation ougandaise. Je vous dis simplement, regardez simplement, tapez sur Internet, exportation d'or Ouganda, vous allez voir le chiffre que je viens de vous donner. Vérifiez qu'en 2011-2021, le chiffre d'exportation était plus ou moins de 120-130 millions de dollars d'exportation d'or de l'Ouganda vers, on va dire, l'étranger. Mais regardez le chiffre de 2005. Donc, de 120 millions de dollars, on est passé à 5,3 milliards de dollars. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer en termes de perte de revenus, de capacité de l'État congolais vers l'Ouganda? Et ça, on est incapable au niveau de Kinshasa de le dénoncer, de mettre ça sur la table. Il suffit de taper sur Internet, tapez-le, vous allez voir, tapez simplement, vous allez voir les chiffres officiels du gouvernement ougandais qui vous le dit que non, ils exportent 5 milliards de dollars d'exportation d'or. L'or est devenu la première exportation de l'Ouganda, devant le café, devant le cacao, alors qu'il y a longtemps, l'Ouganda, c'était un pays agricole qui exporte essentiellement le thé, le café, le cacao. Mais maintenant, on a l'or, on a le café qui a l'Ouganda, le premier producteur d'Afrique du café, cacao, bois, qui n'ont même pas le bois rose, le bois vert, je ne sais pas, toutes les catégories de bois qui sont au Congo, maintenant que l'Ouganda devient exportateur. Et ça, Kinshasa ne veut pas dénoncer cette situation et qui continue à appauvrir cette province. Et cette province devient, je m'excuse de le dire, banlieue, périphérie de Kampala. Et ça satisfait tout le monde, malgré le nombre de morts, malgré le nombre de déplacés. Regardez, Otia publie le nombre de déplacés qu'il y a dans cette province. Je m'excuse, quand vous regardez ça, c'est ahurissant de voir le nombre des populations, le nombre de modifications ethniques qui est en train de se faire dans cette région. Et on ne dénonce pas et on trouve ça normal. C'est vraiment révoltant et vraiment j'encourage nos civils vraiment de continuer le travail, même si c'est un travail ingrat qui n'est pas reconnu à Kinshasa, qu'ils puissent continuer. Et je suis sûr que progressivement on va commencer à continuer à dénoncer ce qui est en train de se passer dans cette zone.
Professeur Bob Kabamba, selon vous, quelle devrait être la réaction du gouvernement? Parce que là, vous rejoignez, on va dire, cette réaction de la société civile, section provinciale de l'Ituri. Comment les gouvernements devraient réagir dans ces contextes, dans cette situation?
Première chose à faire, et puis j'ai oublié encore une première chose, c'est l'évaluation, justement, de l'apport de l'Ouganda. J'ai même oublié une chose qui est hyper importante, des fois que l'on oublie clairement, c'est d'arriver quand même à évaluer justement cette situation, à pouvoir évaluer. Et puis, il y a une chose aussi que je voulais vraiment mettre en exergue, c'est le coût de cette intervention. Qui paye cette intervention? Est-ce que c'est l'Ouganda qui paye cette intervention à la demande de conjointement avec le gouvernement congolais? Ça fait 3 ans que ça dure. Ça coûte de l'argent. Est-ce que l'Ouganda ne va pas revenir au Congo en présentant la facture au Congo? Voilà, nous sommes intervenus chez vous. Voilà ce qu'on a fait. Voilà ce que ça a coûté.
Comme ça a été en 1997 avec la FDL.
Non, pas 1997 en clair. Ici, nous sommes dans un autre contexte. Mmh. Ça n'a rien à voir avec 1997. Ici, nous sommes dans un contexte clair où il y a une demande de l'Ouganda pour intervenir en RDC, que la RDC a accepté, et qu'il y a des coûts de cette intervention. Et je me souviens encore du débat au Parlement ougandais, où on a parlé de 2 millions de dollars par jour d'intervention de l'armée ougandaise au Congo. Mais qui va payer? C'est le budget de l'Ouganda ou le budget congolais? Ou bien dans quelques années, ou bien dans quelques mois, on va voir que Museveni et Kampala va déposer une facture à Kinshasa en disant que nous sommes intervenus au Congo pour résoudre les conflits sécuritaires au Congo. Voilà ce que vous nous devez. Alors, vous vous imaginez un peu toutes ces questions-là, et dans lesquelles il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'éléments, et que tout se passe comme si de rien n'était. Et je répète, j'appuie la proposition véritablement de la société civile. Je sais très bien que ce n'est qu'une goutte dans une mare, dans un océan, mais une goutte dans un océan, ça peut faire une vague, et la vague continuera toujours à avancer et pourra faire changer les choses.
Merci, professeur Bob Kabamba. Monsieur Abdallah Penembaka, qu'est-ce que vous pensez au niveau de l'Assemblée nationale, hein, par rapport au regain de l'insécurité en Ituri? Là, je fais allusion au caucus des députés de l'Ituri. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Est-ce qu'il y a des mécanismes au niveau de l'Assemblée nationale pour amener le gouvernement à pouvoir réagir et pour que la population, notamment aussi la société civile, puisse trouver gain de cause?
Oui, des mécanismes existent. Des mécanismes existent. Je crois, chaque fois, lorsqu'il faut prolonger l'état de siège, vous voyez toujours la réaction des députés de l'Ituri du Nord Kivu. Parce que nous pensons que la petite brèche par laquelle tous ces désordres, peut-être, que le professeur est en train de crier, hein, par laquelle ces désordres sont arrivés, c'est à travers l'état de siège. C'est pratiquement la faiblesse de l'état de siège. Et vous pouvez comparer ce que le professeur Bobo a dit avant l'état de siège. Toutes ces histoires n'existaient pas. C'est déjà lorsque les autorités de l'état de siège sont arrivées et dans l'affairisme, ils ont abandonné ce qu'ils devraient venir faire. Et directement, ça a crié et ça fait que ceux-là qui sont venus nous accompagner, certains, au lieu de s'occuper peut-être de l'essentiel. Ici, monsieur le journaliste, c'est le plus important, c'est parce qu'il ne faudra pas qu'on fasse ces raccordements frauduleux. Il est question de savoir que l'UPDF sait que le veut y faire. Est-ce qu'elle le fait? Moi, je vous dirais, par rapport à 2 ou 3 éléments que j'ai à évoquer, l'UPDF fait sa part. Il appartient à notre gouvernement, il appartient à notre armée, de faire aussi sa part. C'est pas pour rien que nous disons, déjà au départ, nous on avait réclamé qu'on puisse être en contact de cet accord qui a été signé. L'accord, nous l'avons pas vu jusque-là. Et maintenant qu'il faut, il y a nécessité qu'on puisse l'évaluer. Oui, M. Bob a parlé des 6 000 hommes, des troupes ougandaises, mais ça devrait être 50-50. Mais qu'est-ce qui fait que les nôtres ne sont pas aux côtés des Ougandais? Ça, on dit aussi, ça doit nous interpeller. Voilà. Moi, je crois le plus important pour le moment, c'est de soutenir cette action sur terrain, parce que tout ce verbiage, la population n'en a pas besoin. Pour le moment, il y a de ces citoyens qui sont à Badegaïdo, qui passent la nuit sous la belle étoile, déjà des écoliers qui ne fréquentent plus les écoles, autant de morts qu'on ne sait pas enterrer. Ça, c'est le plus important pour nous. Cette guerre-là, ça ne concerne pas tellement. Pour le moment, il est question de réactiver cette action pour que sur terrain, la paix revienne.
Alors, Monsieur Samuel Ouketi, coordonnateur provincial de la société civile de la République démocratique du Congo, on sait que la responsabilité première de protéger les territoires nationaux et la population revient au gouvernement congolais. Pourquoi s'en prendre aux troupes ougandaises qui sont invitées par les gouvernements de la RDC?
Oui, merci les journalistes. Je commence d'abord par saluer le professeur. Dans l'intégralité, nous imposons ses idées. Ça prouve à suffisance que c'est un professeur recherché. Il a balayé, n'est-ce pas, le contexte de la province de l'Ituri. Alors, rapidement, je cherche un peu à revenir et avant que je revienne à la question posée. Sinon, je rappelle ici que l'honorable Abdallah, c'est le gouverneur honoraire de la province de l'Ituri. Et c'est une personne qui a installé même la province et qui s'est battue pour l'existence aujourd'hui de la province. Alors, sincèrement, à la question que vous m'aviez posée, mon frère journaliste, et c'est une question en même temps la réponse, et c'est là où je trouve que sur le même gré d'onde, nous sommes en train de parler la même chose avec l'honorable Abdallah. Vous savez, quand il reconnaît que la protection de la population congolaise revient, n'est-ce pas, à son armée régalienne, ce qui veut dire qu'il reconnaît que la force de protection est réellement donnée à ces états ici au FARDC. Et c'est là où nous nous retrouvons que si FARDC était en mutualisation vraie avec l'armée UPDF, et vous savez, ça c'est un français simple, quand on dit mutualisation, ce n'est pas pour dire que l'Ouganda viendra avec son armée UPDF faire sa part, et FARDC faire sa part, non. C'est un petit français, mutualiser la force, c'est-à-dire, on est à une main soudée, on mène ensemble, on planifie ensemble. Bon, pourquoi? On pourrait dire que UPDF est venu faire sa part, il revient maintenant à la force congolaise, FARDC, aussi démontrer sa part. Vous voyez, ce sont des contextes qui nous amènent à prendre cette position-là. Et je dois dire à la question que l'honorable a posée, parce que vous savez, au plateau ici, il est politique, nous sommes de la société civile, hein, à la question de qui est derrière la position. Moi, je pense que je n'ai pas la réponse là-bas parce que je ne peux pas me mêler dans des idéaux politiques. Mais tout simplement, il a fini par un beau chemin, une bonne voie, qui pour se rendre compte de ce que nous avons décrié, alors qu'il y a une mission d'évaluation. Parce que les gens peuvent penser, j'ai écouté, il a cité des relations entre les fils de Museveni et patati patata. Nous ne sommes pas là, nous sommes société civile.
Voilà, on a quelques petits soucis avec la liaison de M. Samuel Oketi. Alors, professeur Bob Kabamba, cette réaction, c'est pour vous, c'est de la part de M. Patrick Mbouli qui nous appelle, qui intervient depuis la ville de Kolwezi. Nous sommes dans la province de Lualaba. On va donc suivre la réaction de Patrick Mbouli depuis Kolwezi.
C'est Patrick Mbouli Kassama depuis Kolwezi dans la province du Lualaba. Les UPDF, l'armée ougandaise, n'étaient pas venus en RDC pour traquer les ADF, plutôt pour les éloigner des frontières ougandaises afin de protéger mieux la population ougandaise, car leur menace atteignait déjà l'Ouganda. Il n'a jamais été question de contenir les ADF pour épargner la population civile. Cette opération conjointe a permis l'expansion de ces mouvements dans d'autres territoires jadis épargnés de cette barbarie. La société civile entame une bonne démarche, mais malheureusement qui sera étouffée par les dirigeants. L'Ouganda n'a jamais été clair sur la question de balkanisation de la RDC, d'où il n'est pas un ami fiable.
Professeur Bob Kabamba, votre réaction?
Merci beaucoup pour cette question et qui adhère un petit peu à ce que j'avais déjà dit tout à l'heure, mais c'est que je vais me permettre effectivement de pouvoir aller au-delà. C'est que effectivement, quand on regarde un peu le contexte, clairement, on est en train de ce qu'on appelle le vrai faux prétexte sécuritaire qui masque en fait des intérêts qui ne sont pas celles-là. Et donc, quand on regarde effectivement cette dimension, il faut que les ADF restent actif en RDC pour justifier de la présence de l'armée des UPDF au Congo. Si on arrive à réguler les côtés des ADF, ben les UPDF n'aura plus la prétention de pouvoir rester au Congo. Or, en ayant les UPDF, donc en ayant les ADF, pardon, donc l'UPDF peut rester et par rapport aux objectifs qui ne sont pas des objectifs de liquide de l'UPDF, mais l'UPDF doit rester. Et on appelle ça un vrai faux prétexte sécuritaire et qui masque en fait les intérêts que je viens de dénoncer. Quand on parle effectivement aussi, j'ai oublié même de vous donner encore d'autres éléments. Quand l'Ouganda construit des routes jusqu'en RDC, d'après vous, c'est pourquoi? Ce n'est pas pour les beaux yeux des Congolais, c'est aussi pour continuer à favoriser effectivement la consolidation des axes commerciaux du Congo vers l'Ouganda. Et clairement, quand vous regardez les balances commerciales, vous regardez ce que ça rapporte énormément. Et donc, là, les ADF ne sont que un vrai, faux prétexte sécuritaire qui masque les intérêts réels de l'Ouganda, qui est de pouvoir arriver à avoir son interland, et ils ne se le cachent pas, ils le disent haut et fort, l'interland congolais qui leur appartient, et qui même font aller même au-delà, en disant qu'il y a des liens plus forts, c'est-à-dire entre les Ougandais et les communautés congolaises qui vivent à ces frontières, dépendent de l'Ouganda. Et il est normal que l'Ouganda puisse s'occuper de ce que Museveni dit, de ses frères qui sont au-delà de la frontière qui a été tracée par la colonisation. Et ça aussi, malheureusement, Kinshasa ne ferme sa bouche et n'ouvre pas la bouche sur ces questions-là. Alors que c'est des questions fondamentales et qui concernent des millions de Congolais qui sont concernés.
Merci, professeur. Monsieur Yves Abdallah, monsieur Abdallah Penembaka, cette fois-ci, c'est pour vous une réaction qui nous vient des Bénin, dans la province de Kivu. C'est une réaction signée Fabrice Sambili.
Maître Fabrice Sambili, depuis la ville de Beni au nord Kivu. Je crois qu'il faut arrêter l'hypocrisie dans ces pays. Ce qui se passe aujourd'hui en Ituri n'est pas une fatalité. C'est tout simplement la conséquence directe de l'échec total du régime en place. Parce qu'il faut se demander comment comprendre qu'après des années d'état de siège, la situation sécuritaire ne fait que se détériorer. Cela prouve clairement que le pouvoir n'a ni stratégie, ni vision, ni programme sérieux pour sécuriser le territoire national. L'ultimatum contre l'armée ougandaise est en réalité un cri de ras-le-bol légitime de la population. Mais il ne faut pas se tromper des cibles, parce que le vrai responsable, c'est d'abord l'État congolais incapable d'assumer ses fonctions régaliennes. Parce qu'il faut se poser la question, comment un pays souverain peut-il sous-traiter sa sécurité à une armée étrangère et ensuite se plaindre de son inefficacité? Donc aujourd'hui, le président de la République donne l'impression de naviguer à vie sans politique sécuritaire claire.
Monsieur Abdallah Penembaka, votre réaction.
L'état de siège a échoué. Il est plus qu'important qu'on puisse penser à autre chose et surtout revenir peut-être à une administration civile. Parce que comme vous venez de le suivre, en principe la situation s'est aggravée avec l'état de siège. Et le gouvernement a invité l'armée ougandaise pour mutualiser afin que l'objectif soit atteint. Pour le renforcement sur terrain. Malheureusement, au niveau de l'administration militaire, ils ne parlent pas le même langage. Voilà. Le temps ne nous a pas permis d'entrer vraiment en profondeur par rapport aux problèmes que nous sommes en train de vivre sur terrain. Le plus important pour la population de Mambasa, de l'Ituri aujourd'hui, c'est la paix. C'est là qu'ils attendent que les forces mutualisées puissent être sur terrain pour éradiquer une fois pour toutes. Parce que pendant que nous sommes en train de parler avec vous ici, les ADF sont en train d'exploiter de l'or à Mouchacha, ainsi de suite. Et demain, ils seront beaucoup plus forts, ils vont avoir des armements et il faut résister. Il faut éviter que les ADF s'enfoncent davantage dans le grand boulevard qu'on a fait la forêt équatoriale. Là, ça sera difficile de les traquer. Il est plus que temps qu'on cesse cette guerre, que l'armée et les FARDC doivent se ressaisir, le gouvernement de la République doit se ressaisir, et c'est ici l'occasion de, je veux prier encore une fois le président de la République, que l'état de siège a démontré ses limites, la première ministre était sur terrain, elle a évalué l'état de siège, elle est revenue, elle a demandé que l'état de siège soit tout simplement levé et qu'on revienne à l'administration civile. Voilà, parce qu'aujourd'hui, je suis presque sûr, ni était l'affairisme de l'armée a une certaine complicité avec les Ougandais, peut-être on ne vivrait pas tout ce qu'on est en train de vivre. L'administration civile était là, elle était efficace, peut-être elle a failli sur certains points, mais je crois qu'il fallait peut-être à ce moment-là la renforcer, on ne vivrait pas ce qu'on est en train de vivre maintenant. On parle de force. Lorsqu'on dit que sur terrain, moi je viens de Mambasa, je me mets à déplorer, là où vous vous retrouvez avec 100 militaires ougandais, c'est à peine 30 ou 10 militaires congolais qui les accompagnent. Voilà. À qui cette responsabilité? C'est l'armée congolaise, les militaires congolais qui devraient être nombreux par rapport à ceux-là qui viennent en appui. Malheureusement, ce n'est pas le cas sur terrain. Ici, je vous dis, monsieur le journaliste, qu'il se pose un problème réel d'effectif. Un problème réel d'effectif, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on attend pour renforcer l'effectif? Qu'est-ce qu'on attend pour renforcer la logistique? Qu'est-ce qu'on attend? Jusqu'à ce que le dernier Congolais meure, ou peut-être que tous les Congolais se déplacent. Moi, je crois qu'il est plus que temps que l'armée se ressaisisse et pour que le gouvernement se ressaisisse pour que des actions appropriées soient menées sur terrain.
Alors, nous allons cette fois-ci suivre la réaction des Trudeau Hardy Ndunga qui nous appelle depuis la ville de Kananga au Kasaï central. Et c'est pour vous, Monsieur Samuel Luketi.
C'est Trudeau Hardy Ndunga au Kasaï central, précisément à Kananga. L'ultime lancé par la société civile en Ituri contre les troupes ougandaises intervient dans un contexte de forte dégradation sécuritaire marqué par des attaques répétées des ADF dans des zones comme Mambasa et Djougou. À mon avis, cet ultime traduit avant tout un ras-le-bol légitime des populations qui ne comprennent pas pourquoi, malgré la présence conjointe des FRDC et de l'armée ougandaise, l'insécurité persiste, voire s'aggrave. Pendant, demander le départ des troupes ougandaises comporte aussi des risques, notamment celui de créer un vide sécuritaire qui pourrait profiter davantage aux groupes armés. La vraie question n'est pas donc seulement leur présence, mais plutôt l'efficacité et la coordination des opérations sur le terrain.
Voilà, alors on va donc écouter la réaction de M. Samuel Luketi.
Oui, merci mon frère journaliste. Je suis ravi parce que je me fais comprendre à partir de cet ultimatum. Et quand vous voyez les interventions, ça change dans le sens de nous soutenir. Je salue l'auditeur. Et c'est exactement, c'est une situation que nous savons, nous tous, et c'est là où j'ai rejoint aussi l'honorable Abdallah, nous sommes en train de prêter le gouvernement congolais, parce que nous ne pouvons pas compter sur la force étrangère. Vous savez que notre armée, du point de vue rang de classement, est au-dessus, n'est-ce pas, à autant de fois sur cette force-là. Nous demandons et nous sommes campés sur cette position qu'il quitte parce que nous voulons pointer le gouvernement congolais comme responsable et quand ils ne sont pas là, nous connaissons que nous aurons une seule femme qui est l'armée congolaise et c'est ce que nous avons fait. Vous savez que l'Ituri était une province qui semblait ne pas exister. Avec l'état de siège, nous avons vu certains coins retourner au mouvement de la population. Et le travail que nous avons fait même pendant ce temps, là où il y a la responsabilité de l'armée FARDC, il s'était facile pour nous de pointer du doigt qu'à tel millier, à tel millier, l'armée doit aller. Et une fois UPDF quitte Mambasa, nous avons le travail de pointer le gouvernement. Et à ce temps ici, messieurs les journalistes, je suis convaincu que nous avons des éléments, nous avons des membres du gouvernement qui sont en train de suivre cette mission. Nous sommes en train de nous rabattre sur le gouvernement congolais qui est le garant de la protection de sa population, de sa prêté. Et heureusement pour information, je vous informe qu'à peine quelques temps, nous avons reçu la visite, n'est-ce pas, des gouverneurs du Nord Kivu. On suppose bien qu'il y a une organisation qui est en train d'être faite parce que le territoire de Mambasa est à limite avec le territoire du Nord Kivu et on attend voir que les FRDC, l'armée qui est régulière, que nous sommes en train de soutenir de plein droit, peut se mettre à l'ordre des batailles et redonner la paix à notre population. Je rappelle encore rapidement pour dire
pour
que
conclure.
nous ne voulons pas perdre le territoire de Mambasa parce que sur les 7 chefferies, la population de Mambasa est concentrée dans une seule chefferie qui nous reste. Avec tout ce que l'honorable a dit, nous avons la situation humanitaire, les gens sont en train de dormir à la belle étoile, nous demandons de l'assistance des humanitaires, des gouvernements de tout le niveau. Okay. Voilà un peu ce que je peux dire.
Merci beaucoup, Monsieur Abdallah Pene Mbaka, votre conclusion, parce qu'on est déjà arrivé à la fin.
Les FARDC, c'est notre armée. Nous devons la soutenir. L'UPDF est venu en appui au FARDC. Nous devons le soutenir. Et la population de Mambasa n'a que besoin de la paix. Et il se pose un problème sérieux. On a besoin de cette assistance humanitaire. Je crois que les différentes institutions sont en train de nous suivre. Il faut éviter les pires.
Okay.
Le plus vite serait le mieux.
Merci. Professeur Bob Kabamba, votre conclusion.
Je salue vraiment l'initiative de la société civile de l'Ituri de ne pas se décourager, de continuer à dénoncer, de continuer à revendiquer, parce que la conférence de Paris a été focalisée sur la question du Nord Kivu, et on a oublié l'Ituri. Et je pense qu'avec ce genre d'initiative, qu'ils puissent continuer pour que la communauté internationale se mobilise aussi, pour qu'il puisse y avoir un effort considérable de ne pas oublier ces populations, de pouvoir organiser une prochaine conférence pour la province de l'Ituri, et que l'on puisse mettre les lumières, mettre les projecteurs sur ce qui se passe dans cette région, et pas seulement sur Goma, mais c'est que tous les Congolais méritent d'avoir la même attention que tout le monde.
Merci professeur Bob Kabamba, merci également à vous monsieur Abdallah Penembaka, et merci à monsieur Samuel Ouketi, merci à toute l'équipe Guy Maté Tchongo, Dieudonné Nyangasa Wanyangasa, Alain Ngoy, David Mugisa, Benjamin Mudumbi, sans oublier Isaac Remoyope. Je suis Jean-Marc Matwaki, bienvenue donc à ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous pouvez continuer à suivre cette émission sur www.radiocapi.net et n'hésitez pas à nous écrire à dec@radiocapi.net. Très bonne suite du programme à toutes et à tous, et à la prochaine pour un autre numéro de Dialogue entre Congolais, votre magazine préféré.